Cinq hommes ont dirigé la RTBF par Bernard Henbert, lu par Jean-Marie Chazot. Très bientôt, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devra nommer un nouvel administrateur général à la RTBF. Beaucoup s'agitent actuellement en coulisses du monde politique pour tenter de faire élire un de leurs candidats préférés. Sur la toile revient parfois la question. Pourrait-il être pire que l'actuel Jean-Paul Philippot, qui a dirigé et transformé le service public pendant près d'un quart de siècle, de 2002 à 2026? On peut toujours choisir pire, mais cela ne veut dire en aucune façon que le ou les prédécesseurs furent remarquables. 24 ans de règne de Philippot, et donc nombre d'usagers de la RTBF, ont sans doute oublié à quoi ressemblaient ses prédécesseurs, tous de sexe masculin, et surtout comment ils ont fait évoluer nos radios et chaînes de télévision publiques avant le gigantesque développement de la toile. Mon livre « Il faut sauver la RTBF » a été publié en 2008 chez Couleur Livre. Marc Moulin y consacre une partie de sa préface d'une dizaine de pages à un texte intitulé « Les rois maudits de la RTBF », où il analyse l'apport de chacun des cinq administrateurs généraux qui se sont succédés depuis 1960. Je pense qu'il est intéressant de vous offrir aujourd'hui cette réflexion qui ne manque pas de panache. Ce préfacier, 1942-2008, était pianiste, compositeur, animateur et producteur radio, humoriste et chroniqueur. Son « La surenchère, l'horreur médiatique », publié en 1997 par Labor, est resté l'un de mes livres de chevet. Son nom rappelle les groupes Telex ou Placebo. Il fut également le producteur de Lio, d'Alain Chamfort et des Sparks. Le prochain contrat de gestion de la RTBF. Si l'on est à la recherche du successeur de l'actuel patron, il est également grand temps de réfléchir en parallèle au contenu du prochain contrat de gestion de la RTBF, l'actuel couvrant les années 2023, 1er janvier, 2027, 31 décembre. Ce texte sera décidé par le gouvernement actuel avec sa majorité MR Les Engagés, puisque les élections suivantes sont annoncées pour 2029. À titre personnel, j'aurai deux propositions qui me semblent prioritaires à vous soumettre. 1. Pourquoi pas une évolution de la composition du Conseil d'administration RTB1 ? Actuellement, il est composé de 13 représentants des partis politiques, répartis en fonction des derniers résultats électoraux. Je propose que cette façon de procéder ne concerne plus que la moitié de ce CA et que l'autre moitié soit composée de citoyens choisis par un tirage au sort. Ceux-ci seraient rétribués pendant 5 ans pour cette tâche et ils devraient suivre une formation de type pluraliste qui leur permettrait de mieux connaître les coulisses de notre monde médiatique. 2. Je pense que, plus que jamais, il convient de supprimer à la RTBF totalement la présence et donc l'influence publicitaire, y compris le sponsoring et le placement de produits. D'ailleurs, Marc Moulin abordait cette thématique ainsi à la fin de sa préface, donc en 2008. La RTBF, comme presque tous les services publics, est victime d'une libéralisation mal comprise et mal conçue. Aujourd'hui, on aperçoit enfin comment l'argent fait main basse sur les dernières sources de richesse qui ne lui appartenaient pas encore, postes, chemin de fer, énergie, eau, etc. La privatisation des services publics fonctionne sur le mode du pillage. Voilà pourquoi, à la RTBF, 25% des ressources en publicité orientent 75% au moins des programmes. Et voilà pourquoi Jean-Paul Philippot demande plus de pubs et plus d'indépendance, comprenez moins de comptes à rendre. Qu'on aime ou non la publicité, on n'a jusqu'ici quasiment jamais évité qu'elle produise cette logique dévastatrice. La pub n'est ni mauvaise ni méchante, elle n'a jamais empêché la qualité de l'info dans les grands quotidiens. Mais il faut la craindre dans les médias à zapette, ceux qui n'ont pas la force de résister à ces déviances. Il faut donc sauver la RTBF et qu'elle fasse retour au non-marchand qui est son lieu de naissance et sa maison. Ce n'est pas utopique. Cela consistera à supprimer des programmes que seule la pub a fait naître et des personnels et moyens que seule la pub a engagés. J'imagine votre question, mais la RTBF va perdre énormément d'argent. Je me permets de vous signaler le fait qu'on nous a habitués à ne pas poser une autre question essentielle. Que coûte à la RTBF la publicité, et elle coûte très cher par sa recherche et notamment tout ce qu'elle induit. Les rois maudits. Dans cette préface, Marc Moulin introduit ainsi la partie consacrée aux rois maudits de la RTBF. Les monarques maudits de la RTBF sont Robert Wangermé, Robert Stéphane, Jean-Louis Stalpor, Christian Druit et Jean-Paul Philippot. Ils ont en commun d'avoir été désignés par le PS avant la fin du mandat de leur prédécesseur, manœuvre classique du parti pour coiffer au poteau les autres partis qui auraient légitimement pu revendiquer un minimum d'alternance. Car le PS, qui plaisante peu quand on touche à ses fiefs, tient particulièrement à celui de la RTBF. Ce n'est pas qu'on soit cultivé, mais on a quand même lu Alvin Toffler et ses best-sellers qui affirment que le pouvoir appartient à ceux qui possèdent l'information et la communication. D'ailleurs, quand on prend le pouvoir, la tradition est que les putschistes s'emparent par priorité de la radio-télévision nationale et des aéroports. Ce goût extrême du PS pour l'influence sur les médias doit être noté comme une des causes principales de la dégradation des médias, de l'information et de la démocratie dans notre communauté. Robert Wangermé, 1960-1984, selon Marc Moulin. Il fut le seul à marquer vraiment parmi les administrateurs généraux de la RTBF. Docteur en philosophie et lettres, professeur à l'Université libre de Bruxelles, musicologue chevronné, voilà un profil aujourd'hui incongru à l'ère des cadres commerciaux. Il a convaincu plus qu'il n'a séduit, au contraire de son successeur Robert Stéphane, qui a séduit bien plus qu'il n'a convaincu. Il voulait l'originalité, la qualité absolue et l'information dérangeante. À cette époque, le macartisme n'était pas si loin et les incessants procès en gauchisme dont l'info RTBF faisait l'objet au sein du public bien-pensant et de certains milieux ont dû, inconsciemment ou non, rappeler à Wangermé à quel désastre la perméabilité des patrons de presse et de communication au monde politique et commercial avait condamné l'Amérique. Si Robert Wangermé était encore administrateur général de la RTBF aujourd'hui, hypothèse toute théorique, le service public ne connaîtrait pas le dixième de ses problèmes actuels. C'est un homme de savoir, de culture et de divertissement. Un véritable humaniste, comme on dit hélas désormais à propos de n'importe qui. Passionné de musique classique, qu'il appelle de façon énervante « grande musique »,« musique sérieuse » ou pire encore « belle musique », il a toujours fait la place à toutes les cultures. Son modèle fondateur pour la RTBF, la BBC. Quand on voit ce qui reste des télé et radios publiques aujourd'hui dans le monde, on peut dire, même si la BBC est en crise, qu'il ne s'est pas trompé. Il ne s'est d'ailleurs trompé sur quasi rien. De mouvance, mais pas d'obédience socialiste, il a imposé l'indépendance totale de son entreprise, par le respect, une méthode à laquelle plus personne ne pense apparemment. Il a promu le pluralisme, dévoyé depuis, et l'impertinence dans l'information. Aujourd'hui, on se contenterait déjà de la pertinence. Après mai 68, il a lancé des cellules contestataires où s'agitaient les zozos de la RTBF dans des débats internes aussi sérieux que joyeux. Brillant gestionnaire et stratège, il ne s'est fait avoir que sur de rares dossiers. Une décentralisation aberrante et des acquis sociaux superfétatoires. C'était les Golden Sixties. Pendant 25 ans, il a garanti à la RTBF, par sa stature personnelle et son indépendance farouche, une crédibilité qu'aucun de ses successeurs n'a pu soutenir. Sa seule vraie erreur, l'introduction de la publicité. Pas très BBC. Et voilà que la petite solution d'appoint est devenue le problème de fond du service public. Robert Stéphane, 1984-1993, par Marc Moulin. Il est aussi un surdoué comme son aîné. Autre atout, il est journaliste et connaît de l'intérieur tous les métiers de la production audiovisuelle. Ses principaux défauts sont un certain nationalisme liégeois qui étonne un peu chez un homme d'une pareille envergure, une gadgetisation et une fuite en avant dans sa vision professionnelle. Dès qu'une nouvelle technique, un nouveau décodeur ou un nouveau satellite apparaissait, cet homme curieux et intelligent ne parlait plus que de cela. Il redessinait l'avenir en fonction de cela et biffait de tous les ordres du jour tout ce qui ne se rattachait pas à cela. Son bureau était jonché de télécommandes et d'appareils qu'il n'avait finalement ni le temps d'utiliser et encore moins celui d'apprendre à utiliser. Intronisé au moment de l'explosion de la pensée libérale libertaire, il en fut un propagateur naturel dans l'entreprise. Il fallait plus de tout. Une espèce de con-bandit PDG. Ce fut ce qu'il baptisa la troisième voie. ont ringardisé le vieux service public poussiéreux, celui des ennuyeuses lectures et des conférences, pour mettre la pédale forte sur l'image et sur le divertissement, et pas seulement dans les émissions de divertissement. L'ère des directeurs, ex-réalisateurs seulement soucieux de forme et d'imitation, avait sonné pour un trop long moment. Jusqu'au jour où, à la suite d'événements qu'il serait fastidieux d'énumérer, Sandra Kim est devenue le symbole du renouveau du service public. C'est là qu'on a compris que le service public, à force de nini et de hé-hé, devenait du rien-rien et perdait son identité. Robert Stéphane, talentueux meneur de revue, laissa à la RTBF un bilan douteux. L'objectif principal de ses successeurs sera de redresser la barre. Ils n'y sont pas arrivés, mais n'anticipons pas. Jean-Louis Stalport, 1993-1997, selon Marc Moulin. Il fut le premier top manager de la RTBF. Comme les idées arrivent toujours en Belgique francophone avec 12 ans de retard, il fut affirmé au PS comme un fait de bon sens que pour diriger une entreprise comme la RTBF, il fallait à tout prix un pur gestionnaire. Pas un homme du sérail, ni du métier, surtout pas. On a même soutenu à l'époque que rien ne valait l'objectivité d'un gestionnaire qui arrive l'esprit frais et sans expérience, juste capable de lire froidement un bilan, dépourvu de la moindre émotion, dénué du moindre a priori professionnel. À ces égards, Jean-Louis Stalport convenait assurément. Il avait la job description inscrite dans les gènes, puisqu'il souligna lui-même lors de ses premières interviews qu'il ne regardait jamais la télé, ni n'écoutait la radio, et que ses filles écoutaient un peu Radio Contact. Il n'était donc pas seulement un non-professionnel de la profession, mais il n'était même pas public des médias, ni auditeur, ni téléspectateur. Ce qui n'empêcha que 2 semaines après son arrivée, il commentait déjà les programmes dans la presse et, 2 mois plus tard, y participait. Les analogies avec Jean-Paul Philippot sont intéressantes. Il signa une légendaire note culturelle, premier, dernier et unique pamphlet contre la culture, défendu par un patron de radio-télé de service public, sans doute pour ceux qui adorent les histoires belges. Une telle gifle, aussi bouffonne qu'on puisse la ressentir, laissa les milieux intéressés pantois, et pas seulement les milieux intéressés d'ailleurs. Il ne redressa pas les finances de la RTBF. Christian Druit, 1997-2001, selon Marc Moulin. Il fut convoqué par Philippe Busquin un dimanche soir pluvieux de 1997. Le président du PS lui posa la bonne question à propos du mandat d'administrateur général qu'il s'apprêtait à lui faire décerner. « As-tu la santé ?» À tort ou à raison, l'ancien journaliste répondit « oui » et s'embarqua dans un mandat qui n'a pas marqué mais qui a eu le mérite d'être celui d'un professionnel, d'un homme ouvert et surtout d'un homme du sérail. Son règne s'acheva selon la méthode PS bien connue, en capilotade. Il a eu le temps de lancer une réflexion sur le service public, réflexion qui fut rapidement circonvenue par l'intrusion et le parachutage d'incongrus spécialistes en marketing et d'inquiétants philosophes. S'il y avait des philosophes belges autres que Erasme et Jean-Claude Van Damme, ça se saurait. Son règne s'acheva sans qu'on puisse clairement décider s'il aura plutôt été bénéfique ou maléfique. Il ne redressa pas les finances de la RTBF en tout cas. Jean-Paul Philippot, 2002, point d'interrogation, selon Marc Moulin. Il est une énigme. Stalport n'était pas un candidat de Elio Di Rupo alors que Philippot l'est. Mais à part cela, on se demande toujours ce qui, dans l'expérience Stalport, a pu séduire à ce point le PS qu'il fallut recommencer la chose avec un manager comme Jean-Paul Philippot d'un profil assez semblable à celui de Jean-Louis Stalport. On retrouve en effet ici le pur gestionnaire qui n'est ni téléspectateur ni auditeur mais qui aujourd'hui fait de la programmation et sabre dans les reportages. En outre, Jean-Paul Philippot venait de la haute direction des hôpitaux Iris, qui sont réputés dans le milieu médical comme un des centres géométriques de la gabegie socialiste, voire Yvan Mayer, recordman PS des mandats. Il y a laissé un confortable déficit. L'homme semble plutôt vif, intelligent, drôle et sympathique, et techniquement compétent. C'est seulement après quelques temps, semaines, mois, variables selon les observateurs, qu'on commence à se demander ce qu'il a vraiment compris. Jean-Paul Philippot fut plutôt bien accueilli lors de son arrivée en 2002. Il faut dire que la RTBF a tout fait pour éradiquer ses personnels et témoins gênants, plus âgés, à coups de plans jeunistes de pré-retraite. Monsieur Philippot soutient qu'il a d'ores et déjà redressé les finances de la RTBF, ou presque. On a du mal à comprendre comment ce prodige est possible.